Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis octobre dernier, la contestation est forte en Irak envers le système politique actuel. Contestation également des présences étrangères, celle des États-Unis, mais aussi et peut-être surtout celle de l'Iran voisin, soutien politico-religieux du gouvernement irakien. Contestation enfin du rôle majeur tenu par les milices désormais intégrée à la structure de l'État. Une situation décrite lors d'une conférence donnée au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris par un observateur irakien en contact régulier avec la contestation, Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l'Irak, notre invité ce samedi. En seconde partie d'émission, nous feuilleterons la presse régionale Israël et monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Adel Bakawan, bonjour.
Bonjour.
Le mouvement de contestation actuellement en Irak, pensez-vous qu'il soit traité correctement, aussi bien d'ailleurs par les journalistes que par les diplomates ou par les hommes d'affaires ?
Je ne pense pas, parce que malheureusement, on ne traite pas le mouvement avec des grilles d'analyse, des grilles de lecture. On ne traite que des faits. Et des faits sans le contexte, sans les causes, sans les raisons qui ont préparé les conditions objectives de l'émergence de ces faits. Dans ce contexte-là, on ne voit qu'une seule phase du mouvement, une seule dimension, un seul niveau du mouvement, ce qui nous empêche de comprendre ce qui se passe dans la réalité.
Alors justement, pour comprendre cette réalité, quel est selon vous le péché originel qui a conduit à cette contestation ?
2003. Pourquoi ? Parce que lorsque les États-Unis d'Amérique occupent officiellement la République irakienne, l'État irakien, 2 ou 3 jours plus tard, il n'y avait plus d'institutions, plus d'État, plus d'armée, plus de police, plus d'appareils de sécurité. Il n'y avait rien du tout. Et surtout à cause des 2 grandes lois, la loi sur la dépacification et la loi sur le démantèlement de l'armée irakienne. Ces 2 lois ont vidé l'État irakien de tous ses contenus. Et à partir de ce moment-là, avec l'accompagnement et la bénédiction des Américains, l'État irakien s'est milicianisé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire pour remplacer l'armée irakienne, la police irakienne, les appareils de sécurité et même les ministères, on a inséré les anciens opposants, les anciens partis politiques milicianisés et opposés à Saddam Hussein. Alors les hommes politiques ont récupéré les ministères. Les milices ont récupéré les appareils sécuritaires, dont l'armée irakienne.
Selon vous, quels sont les marqueurs majeurs de ce mouvement de contestation actuel ?
C'est que tout d'abord, c'est un mouvement qui n'est pas communautaire, qui n'est pas ethnique, qui n'est pas confessionnel, qui n'est pas religieux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de 2003 à 2019, il y a eu une relation conflictuelle entre les chiites et les sunnites, entre les arabes et les kurdes, entre les musulmans et les chrétiens. Mais ce mouvement-là dépasse toutes ces dimensions communautaires, confessionnelles, ethniques, religieuses, etc. Par contre, le mouvement reste territorialisé dans le sens du territoire chiite. Autrement dit, la majorité absolue des morts et des blessés et même des personnes arrêtées se trouvent dans les provinces à dominance chiite. C'est pourquoi, malgré le fait que le mouvement n'est pas communautaire, n'est pas ethnique, ce mouvement, sa grande faiblesse, c'est qu'il n'a pas pu se transformer en mouvement national en intégrant les Kurdes et les sunnites.
Pour vous, donc, c'est un mouvement régional pour le moment.
À ce jour-là, c'est le mouvement de contestation d'une base sociale défavorisée, exclue, marginalisée contre une base sociale chiite fortement privilégiée.
Une base que vous décrivez et dont vous nous dites que, par exemple, elle a des milliardaires beaucoup plus que dans d'autres pays.
Absolument. Le nombre des milliardaires dans la communauté, dans les zones, dans le territoire chiite, dépasse largement les 13 pays européens.
Alors vous nous dites que c'est essentiellement une contestation d'une base sociale défavorisée chiite, mais est-ce que ce mouvement est véritablement homogène ?
Absolument pas. Le mouvement, les causes, les raisons qui constituent le contexte, la situation objective de cette colère, de cette contestation sont identiques, sont homogènes. Mais par contre, l'expression de cette colère est diverse et plurielle. C'est pourquoi il y a au moins, selon mes analyses, ma grille de lecture, au moins trois catégories d'acteurs qui participent à ce mouvement. Tout d'abord, la jeunesse, que j'appelle la génération des réseaux sociaux, la génération du bulldozer, avec le langage de détruire, hein, sans construire. Et ensuite, vous avez un deuxième acteur que j'appelle les Lénines sans parti communiste, autrement dit, les avocats, les médecins, les professeurs, les chercheurs, qui sont là et qui essaient d'élaborer un mouvement social avec un programme de négociation avec le pouvoir qui est considéré comme adversaire et non pas comme ennemi. Et la troisième catégorie, c'est l'opposition sadriste, hakimiste, abbatiste, voire même des anciens bassistes.
Trois exemples de cette contestation, mais qui ne convergent pas forcément.
Absolument pas. Et ils n'arrivent pas à trouver un langage commun, un code, un programme, une vision de leur mouvement et de l'avenir de leur action. Ils partagent les mêmes causes de la révolte, mais ils ne partagent pas la même vision de l'avenir de leur mouvement.
Alors du côté du gouvernement, quelle stratégie actuelle ce gouvernement a ? Rappelons que le Premier ministre a démissionné, mais les mêmes personnes sont toujours au pouvoir et à la manœuvre. C'est un gouvernement, et vous dites d'ailleurs que c'est un État-milice. Que voulez-vous dire par là ?
C'est un État-milice qui n'adopte à ce jour-là, depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, que la stratégie de la répression. La répression est totale, la répression est massive, est sauvage, est aveugle. La répression, son niveau de répression d'un mouvement de contestation n'a jamais eu lieu depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Cette répression est sans précédent. J'appelle l'Irak État milice ou État milicianisé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en 2003 et en 2014, les deux moments fondateurs de l'État irakien, ce sont deux moments de la milicianisation, de l'institutionnalisation des milices en Irak. En 2003, lorsqu'on n'a plus d'armée, lorsqu'on n'a plus des appareils de sécurité, ce sont ces milices intégrés et institutionnalisés par les États-Unis d'Amérique dans l'État irakien. Et donc, ils contrôlent tous les appareils sécuritaires de l'État irakien. Et en 2014, lorsque l'organisation de l'État islamique menace directement l'existence de l'État irakien en s'approchant à quelques 3 à 4 kilomètres de Bagdad, la capitale, et d'Erbil, encore une fois, l'État irakien fait appel à toute la société irakienne pour s'organiser dans une mobilisation populaire qui deviendra la mobilisation par excellence milicienne et qui seront institutionnalisées elles aussi à leur tour à partir de 2017 dans l'État irakien. D'où ces deux faits, aujourd'hui, la main de la milice sur l'État irakien est lourde.
Alors, est-ce que derrière cette main des milices, il y a aussi la main de l'Iran voisin ?
Selon les données qu'on dispose, 80% de ces milices appartiennent idéologiquement à Wilayat al-Faqih. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ces miliciens considèrent Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique de l'Iran, comme leur référentiel théologique. Ils prennent des ordres directement, non pas du commandant en chef en Irak, c'est-à-dire le Premier ministre, mais de Ali Khamenei, théologiquement parlant, idéologiquement parlant. C'est pourquoi, oui, la main de la République islamique de l'Iran, culturellement, politiquement, idéologiquement, et même éducativement, et même religieusement, et même historiquement, est lourde.
Alors comment expliquer que la contestation, qui est, vous le dites, majoritairement, peut-être même uniquement chiite, soit contre ces milices et la main de l'Iran ?
Parce que tout simplement, ces élites qui appartiennent pour grande partie idéologiquement ou politiquement ou économiquement, hein, à plusieurs niveaux, à la République islamique de l'Iran, ils sont soutenus, accompagnés, financés, voire armés par la République islamique de l'Iran, qui dirige cet État depuis 2003, n'ont pas réussi à construire un État capable de fournir les services de base à cette population. Par exemple, lorsque le degré de température, la chaleur arrive à 53 degrés à Bassora et que la population n'a accès à l'électricité qu'une heure ou deux ou trois heures par jour, comment cette jeunesse-là, comment cette population peut ne pas rejeter catégoriquement, radicalement, ces élites qui prises pour responsables de cet échec de l'État irakien, où l'accès à l'eau potable, l'accès à l'école, l'accès à la culture, ou l'accès tout simplement à une vie digne, à la dignité, entrer dans l'histoire en tant que personne digne, hein, et qui n'ont pas cet accès-là. C'est pour toutes ces raisons, l'Iran est pris pour responsable de l'échec de l'État irakien.
L'Iran, mais aussi les États-Unis.
Les États-Unis, absolument. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit dans ma conférence, c'est grâce à une collaboration entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran que l'État irakien a fonctionné. Seulement, avec une petite nuance, dans le sud chiite, la présence des États-Unis d'Amérique est beaucoup moins visible que la présence et la domination iranienne. On sait très bien que, historiquement, il y a une longue tradition culturelle, éducative, religieuse, politique entre le sud chiite et la République islamique de l'Iran. L'Iran a traité toujours le sud de l'Irak comme une de ses provinces. Pour toutes ces raisons-là, le mouvement de contestation dans le sud vise bien évidemment les États-Unis d'Amérique, mais beaucoup moins que la République islamique de l'Iran.
Selon vous, quelle pourrait être la sortie de crise ?
La sortie de crise est très très difficile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. Est-ce que le mouvement de contestation, les différentes catégories arrivent à un moment donné à élaborer un programme commun avec lequel, sur lequel, à partir duquel entrer dans la négociation avec les élites en face? C'est une question à attendre la réponse, parce qu'on n'a pas la réponse à ce genre. Numéro un. Numéro deux. Est-ce que ces élites-là vont, par exemple, rapidement écouter les attentes de ce mouvement de contestation en organisant d'une manière vraiment rapide les nouvelles élections et d'accepter, par exemple, un candidat qui a le minimum de respect de la part de cette base sociale en révolte? Est-ce que les États-Unis d'Amérique et la République islamique de l'Iran vont travailler encore une fois ensemble pour élaborer, forger une sortie de cette impasse-là qu'aujourd'hui n'est pas visible, hein, n'est pas imaginable dans le contexte dans lequel on se trouve? C'est pourquoi la sortie est toujours possible, mais aujourd'hui, elle est peu probable.
Merci, Adel Bakawan.
Merci à vous. بدايتك اخرتك جوازك اخرتك وين جوازك بس دير بالك لك لا تغلط yes, This is a rack Look at us blowing up Look how I'm throwing up Prime minister on the up Yeah, this is a rack Corrupt in the area Voicey hysteria Saying we gon' take care of ya Nah nah, I'ma get shot for this Nah nah, you might get blocked from this Nah nah, I'ma go train a kid Nah nah, wash off the innocence Nah nah, sense for blood like yeah, yeah I'm so bored like yeah, yeah Let's go blow like yeah, braka Orion Hebdo sur RFI
Direction Le Caire et Jérusalem maintenant pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour.
Michel, on ne parle que de ça, le deal du siècle, est scruté par la presse israélienne.
Bien joué Bibi, a proclamé un éditorialiste. Il faut dire que depuis la publication du plan américain, les déboires judiciaires du premier ministre israélien sont relégués au second plan. Deal du siècle, dans Mariv, l'ancien premier ministre israélien Oud Olmert qualifie plutôt le programme de Donald Trump d'illusion du siècle. Un cadeau d'Amérique, estime un commentateur. Eric, nombreux sont les articles qui mettent en doute la viabilité des propositions américaines. Il faut de la patience, affirme de son côté le quotidien Israël Hayom, proche du pouvoir, qui propose de poursuivre la route avec les États-Unis, avec pour destination la souveraineté. Haaretz fait remarquer qu'au sein même de l'administration américaine, il y a des divergences sur la façon d'appliquer le programme. Dans son éditorial, le journal libéral s'en prend notamment à l'idée de faire passer une partie de la population arabe israélienne sous le contrôle du futur État palestinien. Il ne s'agit pas de pions sur un échiquier, souligne l'auteur de l'article. Benjamin Netanyahou se proposait d'annexer la vallée du Jourdain dès la semaine prochaine. Il doit maintenant retenir ses chevaux. Yedioth Aharonot parle de l'embarras de l'annexion. Netanyahou a épuisé ses cartes gagnantes, dit encore le journal. Et partout, Eric, dans les quotidiens, on se penche sur la réaction de la rue. Et la question est, combien de violence ce plan peut-il engendrer? Et encore à retenir ce titre de Haaretz, Trump est bon président pour Israël, mais dans le mauvais sens du terme.
Alexandre, on en parle aussi dans le camp arabe, évidemment, et une bonne partie de la presse tire à boulet rouge sur ce deal du siècle.
Oui, le deal du déshonneur, la troisième Nakba, qui est le mot arabe pour décrire la création de l'État d'Israël, la calamité, la fin du peuple palestinien, sont les titres qui reviennent le plus souvent dans la presse arabe. Alors une presse qui se fait aussi l'écho des soutiens politiques à la cause palestinienne, comme ceux du président tunisien et surtout du président turc Erdogan, qui qualifie les propositions américaines de projet d'occupation, soutien aussi d'intellectuels et d'artistes arabes. Pour les analystes, le deal du siècle reflète l'arrogance de Donald Trump qui cherche à résoudre des problèmes historiques par du marketing immobilier, un projet mort-né et qui constitue un retour à la case départ et sans doute la fin de tous les accords palestino-israéliens dont ceux du processus d'Oslo.
Pourtant, Alexandre, il y a d'autres journaux arabes moins hostiles.
Oui, certains parlent même du grand silence de la presse arabe. Une presse qui reflète l'attitude embarrassée de la plupart des gouvernements arabes qui cherchent à tenir le bâton par le milieu. On ne rejette pas le projet américain, on lui cherche même des côtés positifs tout en réaffirmant le soutien à la cause palestinienne. Les crises interarabes ont pris le pas sur les Palestiniens, conclut un commentateur.
Israël, élection 2020, autre sujet de la semaine. Quoi de neuf, Michel?
Les élections dans un mois donc, et les sondages donnent un léger avantage au parti bleu-blanc de Benny Gantz, mais les deux grands blocs politiques sont toujours ex aequo. Autrement dit, pas de possibilité de mettre sur pied une coalition gouvernementale qui puisse tenir la route. On fait du surplace, fait remarquer Marive. Tous les événements de ces derniers jours ne semblent pas changer les intentions de vote de l'électorat israélien. Et plusieurs commentateurs laissent entrevoir le spectre d'une quatrième campagne électorale. Dans Yedioth Aharonot, Avigdor Lieberman, le faiseur de rois, proclame que Netanyahou ne pourra plus diriger le pays. Il y a d'autres options de gouvernement, laisse entendre, mais sans expliquer, le chef du parti Israël Beteno.
Votre carnet mondain, Alexandre, la fille de Bill Gates est fiancée à un Égyptien.
Oui, il s'appelle Nael Nassar, c'est un cavalier et il a connu Jennifer Gates lors d'un concours hippique en France d'ailleurs, un concours de franchissement d'obstacles. Pour les journaux égyptiens, l'affaire est pratiquement présentée comme un exploit national. En fait, le rêve américain qui se réalise.
De votre côté, une image forte cette semaine, Michel?
Elle est de retour et sa photo est partout. Nama Issachar, cette jeune Israélienne condamnée en Russie à une lourde peine de prison pour une pincée de haschich découverte dans son sac lors d'une escale technique à Moscou. Et c'est Netanyahou lui-même qui est venu la chercher dans son avion. Pour plusieurs commentateurs, c'est trop. Ils font remarquer que la chance de la jeune femme est d'avoir été incarcérée en pleine campagne électorale israélienne.
Merci Michel et merci Alexandre. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre appli Pure Radio ou encore sur notre site www.rfi.fr. Demain, nous nous intéresserons au phénomène migratoire au Maroc, région de transit pour les populations subsahariennes désireuses de rejoindre l'Europe. Le pays est devenu au fil du temps une terre d'installation, ce qui ne va pas sans quelques bouleversements culturels et sociaux dont nous parlerons avec le journaliste d'investigation casablancais Hicham Oudaïfa. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchami. À demain. RFI.fr